Bonsoir à toutes et à tous, le 87e numéro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, s'invite au cœur du vignoble. En effet, nous vous proposons ce soir le compte-rendu de la 5e édition de Livres en Vigne, première fête du livre organisée au cœur du vignoble bourguignon et accueillie, comme chaque année, dans le prestigieux cadre du château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. C'était les 29 et 30 septembre dernier. Une 5e édition présidée par l'académicien Jean-Christophe Ruffin, venu dédicacer Le Grand Cœur, roman consacré à Jacques Cœur et paru chez Gallimard. Livres en Vigne est le rendez-vous incontournable pour les amoureux de littérature, de vigne, de gastronomie, bref, d'art de vivre. Un rendez-vous convivial totalement gratuit qui offre au public l'opportunité de satisfaire sa curiosité en venant découvrir le château du Clos de Vougeot, exceptionnellement ouvert au public, et c'est aussi, bien évidemment, l'occasion de partager, et c'est aussi le bonheur de rencontrer les auteurs que l'on aime. Un salon donc très littéraire qui a rassemblé plus de 90 auteurs, dont une soixantaine de littérature générale et une vingtaine ayant écrit sur la thématique du vin et de l'art de vivre. Des éditeurs, tant nationaux que régionaux, étaient présents. Des débats publics se sont tenus durant les deux jours, rassemblant à la cuverie du château ou au dortoir des moines auteurs et éditeurs invités à s'exprimer, à échanger en public sur la thématique du vin et du goût, ou sur celle de la littérature, de l'histoire, ou de certaines questions de société. Je pense notamment à une conférence débat sur la place de la religion dans une république laïque. Le thème du bonheur a également été abordé. On a abordé aussi le thème du polar, ou alors des thèmes plus historiques, la Bourgogne d'Alésia à la ligne de démarcation. Je ne peux pas tous les répertorier, mais au total, une quinzaine de débats totalement ouvert au public. Pour ouvrir ce compte-rendu de Livres en Vigne 2012, j'ai choisi un historien, Jean-Christian Petit-Fils, qui est l'auteur d'un volumineux Jésus, 600 pages savantes dans lesquelles il tente d'esquisser un portrait historique du Christ. Eh bien, Jean-Christian Petit-Fils a longtemps travaillé dans la banque, consacrant son temps libre à des recherches historiques sur le grand siècle qui l'ont imposé comme un spécialiste de la période. Ce curieux universel vient de faire paraître chez Fayard un essai littéraire consacré à Alain Fournier. L'ouvrage s'attache plus particulièrement à un épisode de la vie d'Alain Fournier, notamment sa rencontre avec Yvonne de Quièvrecourt l'année de ses 18 ans. Le frémissement de la grâce, le roman du Grand Mône de Jean-Christian Petit-Fils, au micro de l'émission littéraire de Radion.
Je dirais que c'est un coup de cœur parce que j'aime beaucoup Alain Fournier, Le Grand Mône et tout particulièrement sa correspondance. J'ai été passionné quand j'avais 22-23 ans en lisant sa correspondance avec son ami de la Canale, Jacques Rivière, son futur beau-frère. C'est une correspondance qui nous introduit dans le monde littéraire, artistique, culturel, musical de la France d'avant 1914. Extrêmement précise, pointue, avec deux tempéraments qui s'affrontent. Et c'est à partir de là que j'ai rédigé cet ouvrage qui n'est pas une biographie, à proprement parler, qui est un récit littéraire, ou si vous voulez une biographie, mais une biographie littéraire, sans tout de l'appareil critique un peu lourd qu'on trouve dans certains ouvrages que j'ai moi-même pratiqué dans d'autres biographies. Là, il s'agissait d'un essai, tout simplement, montrer le personnage et surtout l'enfantement du Grand Mône, puisque Alain Fournier, qui meurt à 28 ans, donc très jeune, fauché à la guerre 14, le 22 septembre 1914, eh bien, a mis tout son être dans cette œuvre. Et ce que j'ai voulu montrer, donc, c'est la création littéraire. C'est une réflexion sur l'écriture romanesque et cette vie aussi qui est assez romanesque de ce jeune auteur, de ce jeune poète aussi, qui a beaucoup de sensibilité et qui a mis toute cette sensibilité dans son livre.
Et puis beaucoup de magie, ou plutôt beaucoup de féerie dans ce roman du Grand
Oui,
Monde.
Oui, alors voilà, c'est le charme du Grand Monde, c'est de partir de la réalité, et puis très lentement, de nous introduire dans un autre monde. Et il a fallu beaucoup de temps à Alain Fournier pour parvenir à cette alchimie, avec beaucoup de tâtonnements. Il était très marqué par le symbolisme. Au départ, il voulait créer un roman sans personnage, avec des idées pures. Et puis, il s'est aperçu que c'était impossible. Et là, ça a duré plusieurs années, cela. C'est seulement, au bout d'un certain temps, il dira « J'ai trouvé mon chemin de Damas ». En effet, il trouvera par une écriture toute simple, en mettant beaucoup de sa vie et en racontant tout ce qu'il a vécu, notamment dans son enfance à Épineuil-le-Fleuriel, donc dans le Cher, dans le Berry, tous les souvenirs qui remontent de son père instituteur, de sa mère institutrice. On voit encore aujourd'hui à Épineuil-le-Fleuriel cette école qui a été reconstituée intégralement comme elle pouvait l'être, et c'est extrêmement vivant. Et tout cela va en fait dépasser bien sûr ces simples souvenirs, parce que Alain Fournier vit constamment, c'est un des charmes et un des mystères du personnage, vit constamment dans le passé. Toute découverte est une redécouverte chez lui. Et donc c'est assez étonnant quand il découvre le parc de Versailles, il va nous dire « c'est beau comme dans le Berry, ça me rappelle le Berry ». Donc on a un mode de fonctionnement assez étonnant chez lui.
Est-ce qu'on peut dire que la genèse du Grand Mône est liée à une aventure sentimentale qui n'a pas abouti pour Alain Fournier?
Ah oui, c'est...
Sans cette souffrance, ce roman n'aurait pas...
Voilà, alors c'est au cœur de sa vie, il y a cette fameuse rencontre du 1er juin 1905, le jour de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension. Il voit, en descendant les marches du Grand Palais, à la suite d'une exposition, l'exposition La Nationale, eh bien, une jeune fille avec une femme plus âgée, un peu voûtée, qui lui tient le bras. Et il va être émerveillé par cette beauté, une blonde aux yeux bleus. Son regard, les deux regards se croisent et il va la suivre. Il va prendre le bateau mouche jusqu'au début du boulevard Saint-Germain. Et il est absolument fasciné par cette jeune fille. Il va attendre sous ses fenêtres. Et c'est seulement le jour de la Pentecôte qu'il la reverra. Il la suivra jusqu'à l'église Saint-Germain-des-Prés. Et puis, à partir de là, commencera, comme il dit, cette grande conversation avec elle qui va le conduire le long de la Seine jusqu'au pont des Invalides. Conversation merveilleuse dont on a peu d'éléments, peu de renseignements, mais il y a une espèce de promesse. Tous les deux sont attirés l'un vers l'autre. C'est un amour très pur qui naît, qui jaillit de là. Et cette aventure toute simple, finalement, va marquer profondément Alain Fournier, va le façonner et en même temps le conduire à une grande souffrance, ce que vous disiez, avec une... parfois des hallucinations. C'est une aventure qui va durer 8 ans et qui ne conduira qu'à une libération par l'écriture et dans l'écriture du Grand Mône, puisque Yvonne de Quivrecourt, c'est le nom de la jeune fille, deviendra Yvonne de Galais, la merveilleuse héroïne du Grand Mône.
Un amour contrarié à l'origine de la lumière et de la mélancolie du Grand Mône, Le frémissement de la grâce, le roman du Grand Mône, disponible chez Fayard, tel est le titre de la biographie littéraire dont vient de parler son auteur, Jean-Christian Petit-Fils, à notre micro. Dans quelques minutes, nous partirons à la rencontre d'une maison d'édition bourguignonne installée dans un petit village situé au sud de la Saône-et-Loire, aux confins des monts du Beaujolais et du pays charolais. Il s'agit des éditions D'un noir si bleu que nous présentera son créateur Pascal Arnaud. Juste avant, une première pause en chanson Voici La fin des haricots par Thierry Desseux, extrait de son dernier album Villa aux roses. Bonne soirée sur Radium.
On avait des haricots verts au début dans notre univers. Tant et plus, c'était l'amour fou. Tu disais, les filles, on s'en fout. Moi, j'avais des haricots blancs sur mon gilet de prince charmant. J'écoutais dans notre jardin les gousses d'un bonheur serein. Toi, t'avais des haricots rouges qui voyaient même aux infrarouges battre mon haricoeur croquant. Tu me trouvais le plus craquant. Tu peux apprendre le tricot, c'est bien la fin des haricots, la saison des amours passés, que reste-t-il à ramasser? Puis on a eu des flageolets, tu trouvais le jardin plus laid, qu'importe les matins de brume, il te fallait de beaux légumes. Puis on a eu des pois gourmands, tu disais c'est pas le moment, qu'importe les matins banals, tu voulais un panier génial. Puis on a eu des petits pois, tu disais, il manquait plus que ça. Fais-moi de gros haricots verts et des bleus aussi tant qu'à faire. Tu peux apprendre le tricot, c'est bien la fin des haricots. La saison des amours passés, que reste-t-il à ramasser? Maintenant c'est les haricots secs qui donnent et faudra faire avec. On ne peut guère espérer mieux, c'est la misère entre nous deux. Y'a même un rond de pois cassé, tu m'en vois bien embarrassé. J'ai beau les recoller dans le plat, tu les fais voler en éclats. Dans mon pauvre jardin en friche, y'a plus qu'une poignée de pois chiches. Tu dis, je veux des haricots beurre, mieux vaut ça que le déshonneur. Tu peux apprendre le tricot, c'est bien la fin des haricots, la saison des amours passées. Que reste-t-il? À ramasser.
Thierry Desseux et La fin des haricots, extrait de son dernier album Villa aux roses. D'une certaine manière, nous tentons de vous faire revivre les deux superbes journées de Livres en Vigne, première fête du livre organisée au cœur du vignoble bourguignon et accueillie dans les élégantes salles du château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon les 29 et 30 septembre dernier. Comme annoncé avant l'intermède, nous vous invitons à découvrir, si vous ne les connaissiez pas encore, les éditions d'Un noir si bleu qui ont su conquérir leur place dans le paysage littéraire français. Son créateur, Pascal Arnaud, nous présente sa maison d'édition, D'Un noir si bleu.
Alors cette maison d'édition a été créée en janvier 2006. Je l'ai créée après une longue réflexion puisque c'était un désir de jeunesse que j'avais quand j'avais une vingtaine d'années et quand ma fille a eu une vingtaine d'années, je me suis dit il est temps de la faire. Donc pour donner toutes ses chances à cette maison d'édition littéraire, je l'ai créée au cœur de la vie littéraire française, c'est-à-dire dans un petit village de 600 habitants au sud de la Saône-et-Loire, aux confins des monts du Beaujolais et du pays Charolais. C'est une situation exceptionnelle qui me fait connaître presque par cœur les horaires du TGV. Mais c'est pas grave, c'est une très belle aventure.
Alors une maison d'édition délibérément installée à la campagne, dont les œuvres, les romans, romans noirs et beaucoup de recueils de nouvelles sont diffusés nationalement et internationalement.
Oui, tout à fait. Alors l'implantation en campagne pour moi est intéressante parce que de même que on parle de terroir pour les produits de l'agriculture, je pense qu'il y a aussi un certain terroir possible et imaginable pour les produits de la culture. Et que la façon dont on envisage la fiction et la littérature dans un environnement campagnard plus que dans un environnement urbain est un petit peu différente, probablement. Il y a une tradition dans nos campagnes qui est une tradition de conteur qui n'existe pas vraiment en ville à ce niveau-là. Donc il y a, je pense, un sens de l'histoire et de l'architecture du récit qui est un petit peu différente. Alors, tout ça peut faire penser que ma maison d'édition est orientée sur le régionalisme, ce qui n'est pas du tout le cas. Ma maison d'édition est purement littéraire, littérature générale, avec une forte connotation nouvelle, mais pas seulement. Disons que c'est la traduction dans les faits du plaisir qu'on a tous enfants à ce qu'on nous raconte une histoire. Et c'est vraiment le plaisir de l'histoire et de sa forme qui est mon moteur. Pour la diffusion, actuellement nous sommes diffusés bien sûr nationalement avec CED en diffusion et Dodin en distribution. Nous venons de signer il y a quelques mois un accord avec Zoé Diffusion pour la Suisse et nous avons un partenariat avec la librairie Gallimard de Montréal pour le Québec. Dodin et CED s'occupant de la France et de la Belgique.
Donc voilà de bonnes nouvelles qui montrent que la santé des éditions d'Un Noir Si Bleu est plutôt bonne, en dépit des décisions d'augmentation de la TVA sur le livre qui va revenir à son point initial.
Oui, alors...
Dans un contexte où le secteur souffre tout de même.
Oui, c'est dans ce sens-là que ces mouvements autour de la TVA sont peut-être un peu anecdotiques. La plus grosse difficulté, ce n'est pas de savoir si la TVA est à 5,5 ou à 7 sur le livre. La plus grosse difficulté, c'est d'attirer des gens au contact du livre et essentiellement dans les librairies. Le tissu de librairie s'étiole, la présence des gros faiseurs, je dirais, sur Internet est de plus en plus prégnante. La vraie difficulté est là, une des difficultés. L'autre difficulté, c'est comment est-ce qu'on va réussir, en région et ailleurs, à accompagner la mutation des supports de l'écrit qui passent de plus en plus du papier à d'autres supports numériques. Ça pose une question sur la redéfinition encore du rôle de l'éditeur. Donc c'est intéressant, c'est vraiment un chantier passionnant.
Alors vous parlez du numérique, mais alors quid des livrets cartes postales dont vous êtes les inventeurs, ces magnifiques objets, un petit livre de 20 grammes que l'on peut adresser par la poste à la lectrice et au lecteur de son cœur.
Alors les livrets cartes postales, nous avons déjà publié une trentaine de titres sous cette forme. Et pour l'année prochaine, nous préparons une série particulière d'une douzaine de titres, je pense, où on fera le lien entre des textes écrits spécifiquement pour un public jeune, avec trois catégories d'âge, en gros. On vise plutôt les enfants type école primaire ou début de collège, et avec en plus un partenariat qu'on est actuellement en train de nouer avec l'école Estienne à Paris pour les illustrateurs. Nous avons lancé au printemps, au début de l'été, un appel à textes pour retrouver une douzaine de textes intéressants. Nous avons eu 150 auteurs qui ont répondu. On a 305 textes à lire actuellement. On est à deux doigts de finaliser la sélection. Et le partenariat avec Estienne se développe correctement. Donc cette nouvelle série de livrets cartes postales devrait être en librairie en juin prochain.
Alors, un petit mot tout de même sur le nom de votre maison d'édition, Pascal Arnaud, D'un Noir Si Bleu.
Alors, ce nom de maison d'édition est issu de l'émotion que j'avais eue en écoutant un album édité en 2000 d'Angélique Ionatos, qui est une chanteuse grecque, et où dans sa musique et sa voix, on avait vraiment la violence de la Méditerranée, avec sa lumière extraordinaire, avec ses bleus, ses blancs, ses... Et cet album s'appelait « D'un bleu presque noir » ou « D'un bleu très noir » ou quelque chose comme ça. Et vraiment, j'avais eu beaucoup d'émotions là-dedans et je m'étais dit « Ce que je veux faire, c'est donner à ma maison d'édition un nom qui porte la force des textes que j'ai envie de sortir et que j'ai envie de partager. » Et c'est pour ça que j'avais un petit peu récupéré le nom de l'album d'Angélique Ionatos et m'en inspiré pour trouver le nom de la maison d'édition.
Je rappelle que, bien évidemment, vous avez un site internet sur lequel on trouve l'intégralité du catalogue de la maison d'édition D'un Noir Si Bleu. Parlons un peu des nouveautés. Alors, je ne vais pour l'instant que les mentionner et on s'arrêtera sur une des nouveautés dont l'auteur est à nos côtés ici dans la cour du château du Clos de Vougeot. Alors, il y a « Alors j'étais mort et je vous observais ». C'est un roman vraisemblablement de Philippe Napoletano. Un petit mot rapide de présentation.
Alors Philippe Napoletano est un auteur qui habite dans la région grenobloise. Sur ce roman, il y avait quelque chose qui m'avait particulièrement intéressé, c'est qu'il a une écriture très concise. On est dans le format entre le roman et la très grosse nouvelle. C'est un roman court, en fait. Et son projet dans ce roman-là, c'était d'envoyer son personnage principal passer le réveillon de Noël en famille, mais avec l'idée qu'à la fin de ce réveillon-là, il allait se suicider. Donc le suicide a lieu très rapidement au milieu du livre, et dans la deuxième partie du livre, il revisite la relation qu'il a avec les membres de sa famille, dans l'intimité de chacun, puisqu'il est devenu un esprit qui les voit de l'extérieur, et vraiment dans cette relation qu'il a avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Et il a une écriture qui est tout à fait intéressante là-dessus. Et on a d'autres projets avec Philippe Napoletano, peut-être pour 2013 ou 2014. Voilà.
Je poursuis donc avec les autres nouveautés des éditions d'Un noir si bleu. Alors, il y a Facultatif Bar de Franz Bartelt.
Oui, tout à fait. Alors, pour moi, c'est un vrai plaisir d'accueillir un texte de Franz Bartelt dans mon catalogue. C'est un auteur tout à fait atypique et qui a un roman qui est à la fois très noir, un peu gore par certains côtés, mais en même temps avec un esprit d'humanisme et un amour pour les gens et tous ces personnages qui les rendent tous attachants, aussi détestables soient leurs actes. C'est vraiment un grand plaisir pour moi, ce roman-là.
Alors, je manque à tous mes devoirs, j'aurais pu commencer par la dame, Isabelle Minière, qui propose un ouvrage qui a pour titre « Il sera là, debout ».
Oui, alors Isabelle Minière est un auteur que j'apprécie particulièrement parce que elle est assez complexe dans les deux phases de son écriture. On avait déjà publié avec elle un recueil de nouvelles qui s'appelait « Mon amoureux et moi », où elle est plutôt dans une phase d'écriture qui prête à sourire, voire à rire de temps en temps. Et là, dans « Avec qui sera là debout », on est dans son autre phase d'écriture qui est beaucoup plus dramatique, peut-être autobiographique. Alors dans ce roman-là spécifiquement, elle explore la relation entre un père qui est victime d'une maladie dégénérative qui le conduit inéluctablement à l'immobilité et à la mort par la suite, et sa fille qui est en fin d'enfance au début du roman et en fin d'adolescence à la fin, et qui se construit dans sa relation avec ce père disparaissant pendant qu'elle se construit. C'est magistralement écrit.
Merci Pascal Arnaud pour toutes ces précisions. Alors, on a à nos côtés Laurent Vignat, qui n'est pas un débutant aux éditions d'Un noir si bleu. Laurent Vignat, vous venez de faire paraître donc Après Venise. D'abord, un petit mot sur vous.
Ben voilà, écoutez, j'ai 42 ans, c'est mon troisième livre aux éditions d'Un noir si bleu. Après un recueil de nouvelles, Les enfants d'Héraclite, après un premier roman, Le cri de Job, et puis ce dernier qui est pour moi particulier, d'abord par le volume, j'ai dépassé les 400 pages, donc c'est vrai que c'est un roman qui m'a pris 2 ans, puis particulier parce qu'il croise à la fois 2 problématiques qui me tiennent à cœur. D'abord la culture, c'est-à-dire est-ce que l'on peut entrer en culture sans avoir eu, je dirais, l'héritage familial, c'est le cas de mon personnage. Et puis, deuxième élément qui me tient à cœur, c'est Venise. Donc, l'histoire de ce roman, elle est fort simple au départ. C'est une jeune fille qui s'appelle Linda, qui est pizzaiola dans une galerie commerciale, et elle gagne 4 jours à Venise. Et pour elle, ces 4 jours à Venise, le mot Venise n'a pas de sens si ce n'est les clichés habituels sur l'amour, sur les gondoles. Donc le premier problème qui se pose à elle, c'est que la place est pour 2 personnes, elle est toute seule. Donc elle part 4 jours à Venise, comme ça, un petit peu désemparée. D'autant que c'est la période de l'année la moins favorable, c'est-à-dire la période de brouillard sur le Grand Canal, donc elle ne voit pas grand-chose. Et le 4e jour est prévu la visite dans les musées, et au musée Correr en particulier. Et là, elle va rencontrer une Pietà du XIVe siècle, d'un petit maître florentin, et elle va connaître ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal, c'est-à-dire que il est fréquent, paraît-il en Italie, que de jeunes filles soient prises de malaises vagaux, d'étourdissements, lorsqu'elles fréquentent trop longtemps des œuvres d'art. Voilà. Et donc le point de départ du roman est celui-ci, donc ce syndrome de Stendhal, et l'idée c'est de voir quels seront les impacts, les ondes de choc de cette rencontre sur toute une vie.
Les éditions d'Un noir si bleu, créées par Pascal Arnaud, que vous avez pu entendre, accompagné d'un de ses auteurs, Laurent Vignat, pour son roman Après Venise. N'oublions pas de rappeler le site internet des éditions d'Un noir si bleu, sur lequel vous pourrez consulter le blog de la maison d'édition, ainsi, bien évidemment, que son catalogue de recueils de nouvelles, de romans, sans oublier les livrets cartes postales. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la suite de ce compte-rendu de Livres en Vigne, avec une interview de Daniel Picouli venu présenter La faute d'orthographe et ma langue maternelle. Pour l'instant, et soyez heureux. Voici Le tourbillon de la vie, revu et corrigé par GL. Bonne soirée sur Radion. Rendez-vous dans quelques minutes pour la suite de Wagon Livre, votre émission littéraire.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Puis elle chantait avec une voix qui cite au manche au la. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale, son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillé en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. Puis on s'est séparé, chacun pour soi est reparti dans tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est parti dans tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Le tourbillon de la vie par GL à l'instant sur votre radio locale. Nous retournons au château du Clos de Vougeot où s'est tenue les 29 et 30 septembre dernier la 5e édition de Livres en Vigne, première fête du livre au cœur du vignoble bourguignon. Une belle édition qui invitait à l'évasion, à la rencontre, à l'échange et au mieux vivre ensemble. Un salon qui est devenu en 5 ans l'une des plus belles fêtes culturelles de la Bourgogne grâce à l'énergie et au talent de son organisatrice. Oui, il faut le dire, Evelyne Philippe, que nous saluons très amicalement. Tendre bise à toi Evelyne, à très bientôt donc pour la 6e édition en 2014. Je l'avais annoncé avant la pause musicale, voici Daniel Picouli qui nous confie ce qui a motivé l'écriture de son dernier livre intitulé « La faute d'orthographe et ma langue maternelle » aux éditions Albin Michel et qui ramène son auteur à un souvenir douloureux de son enfance.
Oui, c'est ça, c'est un souvenir douloureux, c'est-à-dire c'est ce moment où un petit gamin de 10 ans dans des conditions scolaires est humilié par un enseignant, en l'occurrence un remplaçant, quelqu'un qui n'a fait que passer dans ma vie, mais qui est passé de façon douloureuse, quelqu'un qui vous humilie parce que vous faites beaucoup de fautes d'orthographe. C'était mon cas, j'étais un petit garçon plutôt rêveur, moi une dictée ça m'emmenait dans une histoire, ça me confrontait pas à des règles de grammaire, donc je rêvais et donc je faisais beaucoup de fautes et je trouvais pas ça tellement important. Mais mon instituteur non plus, sauf ce remplaçant. Donc il m'a monté sur le bureau, il m'a mis mon cahier dicté autour du cou, il m'a mis les mains sur la tête. Bien sûr, non, c'est une vraie humiliation publique, c'est pour ça que. Mais en soi, tout ça n'aurait produit aucun effet chez moi. Parce que bon, je peux dire que j'en avais l'habitude, non, mais ça ne me correspondait pas et ça correspondait à rien. Mais il a prononcé cette phrase, il faut vraiment être bête pour faire autant de fautes d'orthographe, bête à manger du foin. Et cette simple petite phrase renvoyait à ma mère, qui faisait beaucoup de fautes d'orthographe. Et cet homme, tout tranquillement, devant la classe, est en train de dire à tout le monde que les gens qui font des fautes d'orthographe sont bêtes, bêtes à manger du foin. Donc il est en train de dire que ma mère était bête. À 10 ans, c'est strictement insupportable. Donc on veut tuer son instituteur, c'est normal, c'est comme ça que commence la pièce. Je veux tuer mon instituteur. Et puis après, on trouve d'autres moyens, parce que, bien heureusement, on passe pas à l'acte. Et ce petit gamin, pour défendre sa mère, pour la venger, s'est mis à faire des tas de fautes d'orthographe. Voilà, c'était sa façon de venger sa mère. C'est pour ça que je dis que la faute d'orthographe est ma langue maternelle. Un titre dans beaucoup de gens, dans lequel beaucoup de gens se retrouvent, parce qu'il y a souvent de ces humiliations à l'école, des petites humiliations, des grandes, mais qui laissent toujours des traces qu'on enfouit, avec lesquelles on fait. Et peu d'enseignants et même peu de personnes font le lien entre cette idée qu'on parle à un enfant, mais que parfois quand on parle à un enfant et qu'on le brutalise comme ça, on brutalise quelque chose de plus cher encore que lui, qui sont ses parents, ou son milieu, ou sa culture, ou là d'où il vient. Là, l'humiliation est profonde et ça peut faire des dégâts. Ça n'en a pas fait, parce que ce gamin a une plasticité mentale qui me sidère. Il a une façon de, j'allais dire, en temps réel, de transformer toutes ces petites égratignures en histoire. Et c'est ce qui l'a sauvé. Il a écrit des histoires et c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit la faute d'orthographe et ma langue maternelle. C'est passé d'une humiliation à une histoire.
Alors, l'orthographe, parlons-en un tout petit peu. À l'heure actuelle, on constate quand même une baisse très importante du niveau de la qualité de l'orthographe de nos élèves et même des adultes. On voit tous quand même des... Ce n'est pas seulement des coquilles, ce sont vraiment des fautes d'orthographe. Alors, Daniel Picouli, est-ce que vous êtes attaché à une bonne graphie, à une orthographe parfaite, je le suppose?
Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est mon livre ne prône pas du tout la faute d'orthographe. Je dis toujours, et je disais à mes élèves, si vous vous rebellez en faisant des fautes d'orthographe, vous avez perdu d'avance. C'est tout. On vit en société, il y a un certain nombre de codes qu'il faut acquérir si on veut se transporter dans cette société, s'y mouvoir sans trop de résistance et de difficultés. Donc, ce sont des codes relativement simples à acquérir. Malheureusement, l'école ne s'en occupe pas de la même façon qu'auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, bien évidemment, tout ça était mécanique, était imposé, sans discussion. Et malheureusement, cette orthographe ayant une logique qui est vraiment très compliquée à appréhender, j'allais presque dire que l'orthographe se prêtait très bien à une pédagogie primaire. Primaire, c'est-à-dire on apprend. C'est comme ça, et c'est tout. Voilà.
Et l'orthographe est-elle la science des ânes?
Je ne sais pas si elle est la science des ânes, mais en tout cas, elle est d'une logique qui est très difficile à appréhender. L'orthographe et toutes les aberrations qu'on maintient sont justifiées avec des circonvolutions très complexes, avec l'histoire, avec le fait qu'on a décidé un jour de doubler des consonnes là, bon. C'est plus la question. Elle est comme elle est. Soit on a décidé de la rejoindre, soit on a décidé de ne pas la rejoindre, soit volontairement, soit involontairement. Et tout ce qu'on peut constater, c'est que tout ça ne fera que nous pénaliser. On pourra me dire tout ce qu'on veut. Si on envoie un CV avec des fautes d'orthographe, il est fort possible qu'on n'ait jamais d'entretien d'embauche. Voilà. Donc ça voudra dire que vous aurez été éliminé d'une compétition dans laquelle vous aurez peut-être remporté le poste, mais on n'a même pas voulu vous voir. Voilà. Donc, personne ne pourra empêcher quelqu'un de regarder votre lettre, votre mot, votre SMS en se disant que c'est assez déplorable d'écrire comme ça ou de ne pas avoir la courtoisie de vérifier. C'est ainsi. Je ne le justifie en rien. Je dis que c'est une résistance d'arrière-garde et que toutes les simplifications qu'on pourrait même introduire, on peut toujours...
Oui, est-ce que vous êtes favorable à un assouplissement de certaines règles?
Mais non, moi, si on me met nénuphar avec un F, personne ne pourra... Mais peu importe, si on me met nénuphar avec un F, tous ceux qui écrivaient nénuphar autrement avant... Trouveront ça ridicule ou trouveront ça laxiste ou trouveront ça une facilité. Donc il y aura toujours des marqueurs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand l'orthographe est un marqueur social, le fait de faire des fautes d'orthographe vous fait repérer comme venant de tel ou tel milieu. C'est tout à fait dommage et c'est surtout tout à fait dommageable. Donc je ne suis pas pour...
C'est discriminant, l'orthographe.
Complètement. C'est complètement discriminant. C'est une science sociale, c'est-à-dire ça fait partie de ce que possède une certaine classe et qui l'impose, une certaine élite et qui l'impose aux autres. Donc de toute façon, même si on simplifiait l'orthographe, je suis certain que les gens qui possèdent l'orthographe classique conserveraient cette orthographe et qu'ils se distingueraient et se reconnaîtraient entre eux grâce à cette orthographe de gens cultivés.
Daniel Picouli, à notre micro pour La faute d'orthographe et ma langue maternelle, disponible chez vos libraires aux éditions Albin Michel. Trois prix littéraires ont été décernés par les jurys des prix Livres en Vigne. Tout d'abord, le prix Albert Bichot a été attribué à Laurent Benegui pour « Mon pire ennemi est sous mon chapeau » aux éditions Julliard. Parrainé par la confrérie des chevaliers du Tastevin, le prix du Claude Vougeot a récompensé la bande dessinée de Étienne Davodeau, « Les Ignorants » aux éditions Futuropolis. Enfin, le choix du prix du premier roman Méo Camuset s'est porté sur « Vous prendrez bien une tasse de thé » aux éditions Plon, un roman signé du Lyonnais Claude Keller. Dans quelques minutes, nous poursuivrons ce compte-rendu non exhaustif de la 5e édition de Livres en Vigne, qui s'est tenue les 29 et 30 septembre dernier au château du Claude Vougeot entre Beaune et Dijon. Je vous laisse pour l'instant en compagnie de Patricia Cass. Mademoiselle chante le blues, c'était en 1987.
Je chante le blues. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle bois du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Les bottes comme on lèche ses vitrines. Et la même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle bois du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y sans jamais se faire du mal. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle bois du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit. Mademoiselle chante.
Elle le chante bien, le blues. Patricia Cass, à l'instant, sur votre radio locale. Revivons la 5e édition de Livre en Vigne 2012 avec les éditions de l'Armançon, bien évidemment présentes au château du Clos de Vougeot. Deux nouveautés en cette fin d'année au catalogue. Tout d'abord, le dernier roman d'Ignacio Catalan, intitulé « Dans la lumière d'Isiatis », Ignacio Catalan que vous entendrez d'ici quelques minutes. Mais nous donnons d'abord la parole à Michel Redron qui signe son 9e livre aux éditions de l'Armançon, un roman intitulé « Une vie disparue ». Michel Redron.
Alors, « Une vie disparue », en fait, c'est une vie oubliée. C'est un livre sur l'amnésie. Mon héros se retrouve un jour sur une aire d'autoroute, en chemise, sans papier et surtout sans mémoire. Il est atteint de ce que les médecins appellent une amnésie psychogène. C'est-à-dire qu'il sait très bien qui était Louis XIV, qui était Napoléon Bonaparte, il sait lire, compter, écrire, mais tout ce qui touche à sa vie intime, à sa vie personnelle, est passé à la trappe. Donc, il essaie de positiver, et puis, pendant 20 ans, il va se reconstruire une vie. Et il trouve même ça un petit peu grisant, parce que finalement, il est dans une situation exceptionnelle. Il va pouvoir s'inventer un passé, s'inventer des souvenirs. Et finalement, on sait bien qu'entre le rêve et le souvenir, l'imagination et le souvenir, la frontière est tenue. Donc, il s'invente une filiation, il s'invente une famille, il s'invente une jeunesse, des relations, des petites amies, beaucoup de femmes dans sa vie. Et il se construit un univers, mais cet univers, il se le construit évidemment dans le mensonge. Et pour réussir dans le mensonge, il faut une très bonne mémoire. Donc c'est peut-être ce qui lui manque. Mais, et surtout un jour, il va croiser une femme dont le regard lui semble familier. Il est persuadé que cette femme a eu de près ou de loin un rapport avec sa vie disparue, avec sa vie oubliée. Donc il va s'accrocher à cette femme pour essayer d'en savoir plus sur son passé. Et puis cette femme est un petit peu mystérieuse quand même. Il a beaucoup de difficultés à la faire parler. Et puis au fil de l'enquête, il prend peur un petit peu. Il se dit, mais finalement, est-ce que c'est une si bonne idée de vouloir absolument savoir qui j'étais ? Parce que vais-je découvrir ? Finalement, il s'est construit un personnage pratiquement idéal, mais la vérité est là, et puis est-ce que c'est bien de découvrir cette vérité ? Est-ce qu'il ne faut pas mieux, finalement, continuer à vivre dans le mensonge ? C'est tout le thème du livre, et aussi avec un problème de culpabilité qui le hante, parce qu'il sent bien que ce personnage qu'il a été n'est pas très clair. Donc il se pose une grande question, est-ce qu'on peut par exemple être coupable d'actions que l'on aurait commises dans une vie qui n'est plus la sienne, dans une vie qui est complètement disparue ? Et puis finalement, donc, il va choisir la vérité.
Ce qui est peut-être sage, en tout cas, voilà une belle réflexion, faut-il choisir la lumière de la vérité ou alors l'obscurité et le confort du mensonge. Tel est donc le dilemme au cœur donc de votre dernier roman intitulé « Une vie disparue » et c'est signé Michel Redron aux éditions de l'Armançon que je remercie. Et nous changeons d'époque et d'auteur avec quelqu'un que les auditrices et auditeurs de l'émission littéraire de Radio ne connaissent bien, c'est Ignacio Catalan. Ignacio Catalan, bonjour et merci.
Bonjour.
Alors Ignacio, vous faites paraître un nouveau roman médiéval, période tout de même assez chère à votre cœur et à votre création littéraire.
Complètement, oui, puisque je partage mon écriture entre la Bourgogne, plus précisément le Morvan, puisque je suis natif de là, comme mon nom laisse bien entendre, et l'époque médiévale qui m'a toujours beaucoup attiré et accroché, notamment sous ses aspects culturels, plus qu'autrement. Voilà.
Alors, on se souvient du Chant des Pierres, qui était l'histoire d'un jeune convert au Moyen-Âge, affrontant l'époque, les pestes, la croyance aussi, la quête de la foi, le chemin de la foi. Et là, vous nous entraînez dans la lumière d'Isiatis. Et là encore, le Moyen-Âge, chrétienté, religiosité, foi, mysticisme, Vierge Noire, comment présenter ce nouveau roman, Ignacio Catalan ?
Écoutez, si ce n'était pas aussi banal, je suis tenté de dire qu'il s'agit d'une histoire d'amour, mais une histoire d'amour inaccessible. Ce livre est curieusement né un peu d'une... j'allais dire d'une coïncidence. J'étais en train de travailler sur les trouvères et troubadours, troubadours et trouvères pour être chronologique, lorsque un hasard m'a fait tomber sur le sujet du mystère des Vierges Noires, et ce qui m'a incité à... Je parlais de coïncidence tout à l'heure parce qu'effectivement, la période où sont nés les troubadours et trouvères, c'est le 11e siècle et ça va jusqu'au 13e siècle. Bon, alors à la fin du 13e siècle, les trouvères disparaissent pas, mais ils s'appellent ménestrels et ce sont tout à fait des gens tout à fait différents. Ce ne sont plus des poètes vagabonds comme on les a connus, comme les Rudebeuf ou autres. La coïncidence fait qu'effectivement, donc, la période pendant laquelle se sont développés ces trouvères et troubadours au travers de la France coïncide exactement avec le mystère de ces fameuses vierges noires qui ont commencé à apparaître fin 10e, début 11e siècle et qui, à la fin du 13e, ont complètement disparu. Celles qui existaient ont subsisté, bien entendu. On en voit partout, à Dijon, à Beaune, en Bourgogne, un peu partout, beaucoup en Auvergne. Mais on ne sait pas pourquoi il ne s'est plus sculpté de vierges noires à partir de la fin du XIIIe siècle. Donc c'est une coïncidence, bien sûr. Il n'y a rien à voir entre trouvère, troubadour et vierge noire. Mais bon, cette coïncidence m'a justement interpellé, ce qui fait que bon, j'ai essayé de développer ça. Alors je parlais d'une histoire d'amour, parce que c'est d'une part effectivement une histoire d'amour, ce sont même deux histoires d'amour inaccessibles. C'est-à-dire une histoire d'amour très terrestre, entre ce jeune trouvère justement, et puis cette Virgo Vestalis, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, qui est une femme exceptionnelle dont il va tomber amoureux, mais qui lui est complètement inaccessible, parce que c'est une adepte de la Vierge Noire, et donc elle y est très très attachée, donc c'est un amour qui ne va pas pouvoir se réaliser. Et en même temps, pour ce trouvère, la quête de Dieu, parce que bon, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, le doute n'existe pas, hein. Donc, tout le monde croit. Mais malgré tout, certains se posent des questions. Et quand on commence à se poser des questions, naturellement, c'est plus la foi du charbonnier qu'on a, c'est une foi qui se veut raisonner. Donc en même temps que cette quête auprès de cette femme, qui vit dans un milieu excessivement religieux, va se développer, il va rechercher la quête de cet amour de Dieu qui lui est encore plus inaccessible. Alors la question est de savoir, et la réponse n'est peut-être pas dans le livre, ou du moins très partiellement, est-ce qu'un amour est réalisable, quel qu'il soit, est réalisable, quelle que soit sa forme.
Ignacio Catalan, à l'instant à notre micro pour son dernier roman médiéval, Dans la lumière d'Isiatis, avec en couverture La Vierge Noire de Rocamadour. Et rappelons le titre du dernier roman de Michel Redron, Une vie disparue, deux ouvrages disponibles aux éditions de l'Armançon. Début novembre prochain, les éditions de l'Armançon auront 25 ans. Sur Radion, nous avons déjà fêté les 25 ans des éditions de l'Armançon avec son créateur Gérard Gauthier dans le numéro du 17 octobre dernier de Wagon Livre, émission disponible en podcast sur le site internet de votre radio locale www.radion.fr. Dans quelques minutes, il sera question d'un roman dont le thème central est la tradition des mariages arrangés dans la communauté turque de Belgique. Son auteur Armel Job nous en dira un petit peu plus après les quelques notes jazzy que voici en compagnie de Marie-Lou Williams, Just You, Just Me. Thank you. La cinquième édition de Livre en Vigne 2012, comme si vous y étiez. C'était les 29 et 30 septembre dernier dans le cadre prestigieux du château du Clos de Vougeot, mais c'est ce soir sur votre radio locale. Une deuxième partie de ce compte-rendu vous sera présentée mercredi prochain à partir de 21h, toujours à bord de Wagon Livre avec des interviews de Jean-François Kahn, de Frédéric Mollet pour son polar Déjeuner sous l'herbe, et puis nous entendrons aussi l'Auxerrois Alain Quévès, créateur des éditions Rhubarbe, sans oublier Olivier Barrault, l'animateur de Un livre, un jour sur France 3. Ce sera donc mercredi prochain, 31 octobre, toujours à partir de 21h et sur Radion. Présent au Clos de Vougeot pour dédicacer son dernier ouvrage, j'ai demandé à Armel Job de se présenter et de nous expliquer quel était le thème principal de « Loin des mosquées » paru aux éditions Robert Laffont.
Je m'appelle donc Armel Job, je suis belge, mais la plupart de mes romans ont été publiés chez Robert Laffont, donc j'ai une dizaine de romans publiés chez Robert Laffont. Voilà, professionnellement j'étais professeur, j'ai enseigné le latin et le grec pendant de nombreuses années et maintenant je suis écrivain à temps plein.
Alors avec Loin des mosquées, vous mettez le doigt tout de même sur un sujet sensible, oui. Sujet qui renvoie en fait à la thématique du mélange des cultures et tout de même la difficulté de se comprendre lorsque la religion aussi intervient.
Oui.
Lorsque les religions interviennent.
Oui. Tout de suite, je dirais qu'il ne s'agit pas tellement d'une question de différence de religion, même si le titre porte à croire qu'on va traiter de l'islam, puisque Loin des mosquées, bien sûr, évoque immédiatement l'islam. Mon roman traite des mariages arrangés. Les mariages arrangés sont extrêmement courants dans les communautés immigrées, et j'ai été interpellé lorsque j'étais professeur par le cas d'un de mes élèves, un élève excellent, qui avait fait de très bonnes études, des études universitaires, qui était très très bien intégré, un élève de la deuxième génération de l'immigration, donc né en Belgique, mais de famille turque. Et il se fait que, par hasard, j'ai assisté au mariage de cet élève, et que j'ai appris au cours de ce mariage que la promise était une jeune femme qui venait arriver de Turquie l'avant-veille du mariage. Cette jeune femme, il ne la connaissait absolument pas, et il se mariait donc conformément aux traditions de la communauté turque en Belgique.
Et quel était l'intérêt de cette union ? Elle était...
Aucun intérêt,
même pas financier.
Non, pas du tout. Il s'agit simplement de traditions. Donc, les traditions veulent que les familles prennent des arrangements pour les mariages. Les mariages. Donc, la société turque est une société extrêmement endogamique. Le mariage privilégié, c'est le mariage avec la cousine. On reste donc dans le même circuit familial, et des enquêtes très approfondies aujourd'hui ont été menées, notamment à l'université de Strasbourg, sur les communautés turques de France, d'Alsace. En Alsace, par exemple, les Turcs sont très nombreux, et actuellement, dans la deuxième génération d'immigrés, donc je veux dire des gens qui sont nés en France, qui connaissent bien la France, qui sont bien intégrés, on a encore 50% de mariages arrangés. Il s'agit de tradition. Et donc, mon propos était de réfléchir à ce type d'union, pas du tout en brandissant l'étendard de la culture occidentale contre la culture des cultures étrangères, non plus en brandissant l'étendard de notre culture contre de prétendues pratiques religieuses, car ces mariages n'ont strictement rien à voir avec la religion. Il ne faut pas croire que l'islam prône les mariages arrangés, absolument pas. Il s'agit de traditions ancestrales, et il est très difficile pour des personnes appartenant à ce genre de culture, même au bout d'un cycle d'acculturation très long, il est très difficile d'échapper à ce conditionnement, je pense, ce conditionnement de la société. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est celle de savoir s'il est opportun même pour ces personnes de s'éloigner de ces traditions qui nous semblent à nous extrêmement curieuses. Nous pensons depuis un certain temps en Europe occidentale, dans le monde occidental, mais ça n'a pas toujours été le cas, il faut tout de même s'en souvenir, que le mariage par excellence, c'est le mariage d'inclination, le mariage de passion. Je dois éprouver de la passion.
D'amour.
Mariage d'amour, voilà. Mais voyons-nous que nos prétendus mariages d'amour, nos mariages reposant sur la passion, soient de tels succès que nous puissions balayer du revers de la main les mariages arrangés qui, très souvent, sont des mariages bien plus solides et qui donnent peut-être autant de bonheur et de satisfaction aux personnes qui vivent dans ces traditions. Donc mon roman n'est pas du tout un roman par lequel je voudrais porter un jugement, mais simplement un roman dans lequel j'ai essayé d'imaginer. D'ailleurs, le roman est écrit à la première personne et il y a plusieurs personnes qui prennent la parole. Il y a d'abord ce jeune homme. Nous entrons dans la tête de ce jeune homme. Nous l'écoutons monologuer et nous comprenons petit à petit pourquoi pour lui il est très difficile d'imaginer un autre mariage. Parce que même s'il est en Occident depuis de nombreuses années, depuis toujours, lui, il n'empêche qu'il reste en lui un sentiment il garde ce sentiment d'être un étranger. Et une partie importante de ce qu'il peut faire l'essence de sa personnalité tient au respect justement de la tradition. Je ne peux pas devenir identique aux Occidentaux, et donc si je veux être quelqu'un en harmonie avec lui-même, il faut que je continue à pratiquer certaines traditions de mon milieu.
Armel Job au micro de Radiol pour son dernier roman Loin des mosquées, paru aux éditions Robert Laffont. Un clin d'œil à Didier Boileau, libraire à Avallon, pour qui Livre en Vigne était cette année le dernier grand salon d'une carrière de libraire qui s'achève dans quelques mois avant de goûter à une retraite bien méritée. Nous saluons Didier Boileau et puis on vous informe aussi que cette librairie avallonnaise importante en Bourgogne sera effectivement bien reprise. On vous tiendra d'ailleurs régulièrement informé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir partagé ce compte-rendu de la 5e édition de Livre en Vigne 2012. Mercredi prochain, attention, mercredi prochain, deuxième et dernière partie de ce compte-rendu sur l'antenne de Radiol. C'est toujours à partir de 21h. Alors au programme de cette deuxième partie de compte-rendu de Livre en Vigne, un entretien avec le truculent Jean-François Kahn qui nous expliquera pour quelles raisons l'élection de François Hollande en mai dernier est une catastrophe pour la France. Et puis nous nous rendrons sur les lieux d'un crime commis au parc de la Villette en compagnie de Frédéric Mollet pour son polar au suspense incroyable Déjeuner sous l'herbe. Une belle occasion de plonger dans l'univers de la police judiciaire, de la médecine légale et de l'art contemporain. Nous aurons aussi le plaisir de vous proposer un entretien avec Olivier Barrault. Olivier Barrault, vous le connaissez, c'est celui qui présente Un livre un jour sur France 3. Et Olivier Barrault nous parlera notamment de sa passion de l'histoire du cinéma français. C'est donc au programme de Wagon Livre la semaine prochaine, mercredi 31 octobre à 21h, toujours sur Radion. Et puis, quelques informations culturelles avant de nous séparer. La 5e édition du Salon du Livre de Saulieu, les 3 et 4 novembre prochains, c'est à l'espace Jean Bertin. Une 5e édition placée sous le signe du dessin humoristique, puisque le dessinateur Gab de la France agricole est l'invité d'honneur. Ouverture du Salon de Saulieu le samedi 3 novembre de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h, tout en vous rappelant que le dimanche après-midi à Saulieu, donc toujours à l'espace Jean Bertin, un atelier bande dessinée sera animé par Bauer, qui est dessinateur au journal Le Progrès, à Science et Vie Junior, mais aussi à l'UMA. C'est donc dimanche de 14h à 17h30. On vous proposera d'ailleurs un compte-rendu du Salon du Livre de Saulieu dans le courant du mois de novembre à bord de Wagon Livre. Et puis, samedi 3 novembre, cette fois-ci c'est à Auxerre, à la librairie La Pieuvre, 53 rue du Pont. Eh bien, la librairie La Pieuvre organise une séance de dédicace avec Claude Plumaille de 11h à 12h30 et de 14h à 17h. Claude Plumaille dédicacera les albums de la série Résistance parus aux éditions du Lombard. C'est donc samedi 3 novembre. Au 53 rue du Pont, librairie La Pieuvre. Et puis, plus proche de nous, c'est ce dimanche 28 octobre à Moneto. N'oubliez pas la 23e édition de Festilivre, qui est aussi marché national du livre. Des invités de bande dessinée, parmi lesquels Chris Flamand, Dominique Vallet, Florent Denis, Joël, mais des écrivains, Josiane Maxel, Barbara Moreau, Carole Borda et le Club Zanzi Art, Eva Lahr, Bernard Moreau-Gaudry, prix littéraire du moment, sans oublier les éditions de la Frémirie, installées en Puisaye, la Gazette 89 édition. Enfin, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Festilivre, vous pianotez sur le clavier de votre ordinateur Festilivre Moneto 2012 et vous découvrirez le site internet de l'association Anicom. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à l'écoute du programme musical de votre radio locale. Au revoir à toutes et à tous. Merci encore. À la semaine prochaine. Au revoir.